17h24 minutes. Baisse en bourse encore aujourd'hui. C'est la panique pour les petits investisseurs, Pierre-Yves.
Oui, il y a une dame qui m'écrit aujourd'hui. Hey, est-ce qu'on est dans le crash des années 30? Je dis, wow, wow, wow. Il y a des gens qui paniquent. Ils veulent tout liquider leur portefeuille en disant, j'ai perdu beaucoup depuis juillet. Oui! Mais vous avez perdu pas tant que ça depuis le début de l'année. Oui, c'est une année catastrophique, là. Oui, on a perdu 2000, on est rendu à 2400 points, là, de perdu sur le TSX depuis le plafond. Oui, on a perdu aux États-Unis beaucoup, mais sur une année, oui, vous avez perdu un certain pourcentage. Mais c'est pas catastrophique. C'est
toi,
pas.
Tu toucheras à rien de rien.
Moi, ce que je reverrais surtout, c'est votre position d'investisseur. Mm-hmm. Est-ce que vous devez changer votre profil? Tu sais, la volatilité, ça dit aux gens, hey, regardez votre profil, regardez si vous êtes capable de prendre autant de volatilité. Par exemple, le Nasdaq, tu sais, 20% de perdu depuis le mois d'août. C'est sûr, c'est les titres technologiques. C'est les très payants quand ça va bien, mais c'est les très moins payants quand ça va mal. Depuis un an, le Nasdaq a perdu 6%. D'accord. Mais tu sais, elle avait pris tellement de valeur sur 5 ans, comme je disais hier, tu sais, il faut que les gens se calment un peu. Mais, si ça vous stresse, vendez tout. Le problème.
Tu sais, quand c'est ton bas de laine, c'est là que c'est stressant.
Ouais, mais
là,
quand t'as perdu un pourcentage de ton bas de laine, puis tu le vends, puis tu mets ça dans des titres garantis, là. Mm-hmm. Si t'as 65 ans, 70 ans, 75 ans, c'est bien, mais quand t'as 20 ans...
Faut pas faire ça.
T'es en train de dire que... Si la bourse monte de 5% l'an prochain, toi, tu vas te contenter de 1, donc tu vas être prêt à perdre 4%. Ça, là, c'est un des biais de l'investisseur. Être prêt à perdre de l'argent, donc perdre du rendement, plutôt que d'en perdre. C'est un des gros biais de l'investisseur. On aime mieux pas perdre ce qu'on a ramassé que de perdre du rendement. Mais pourtant, Marie-Claude, si je regarde mon portefeuille en date d'aujourd'hui, là, mm-hmm. depuis que j'ai commencé à épargner dans ma vie, je te dirais qu'il y a à peu près... En pourcentage, évidemment, dépendant de quand tu te places, là, mais tu sais, il y a un 30-40% qui est quoi? Qui est du rendement. Ça veut dire que si j'avais juste mis le capital sans faire de rendement à faire du 1%, j'aurais perdu des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de dollars à vouloir être défensif. Donc, à force de vouloir être défensif, on devient pris dans son piège, c'est-à-dire le piège de pas faire d'argent. Donc, si vous voulez faire de l'argent, faut prendre du risque. Si vous voulez pas en perdre, faut pas en prendre, mais il y a un coût de renonciation.
Il y a un coût des deux barres, de toute
façon. Exact.
Bon. Socio-financement ou financement participatif, t'as un exemple très, très précis à nous donner.
Oui. Vous savez que Fred Savard me taquine à l'indice McSween, mais il lance aujourd'hui une plateforme de socio-financement pour faire un podcast. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que les gens se demandent tout le temps, ah, du socio-financement, c'est une façon de quitter. Non. C'est une façon de collecter de l'argent d'avance. Par exemple, Annie Villeneuve l'avait fait pour un album.
Oui, pour ça. Oui.
On vend les albums d'avance, ce qui permet à la personne de l'enregistrer et de vous les envoyer. Donc, s'il y a du profit au bout de tout ça, il y a de l'impôt. Donc, on paie de l'impôt sur ce que vous envoyez, comme si vous aviez fait un achat au magasin. Parce que dans le fond, là, ce que Fred Savard fait présentement, c'est qu'il assure ses coûts de développement pour ses collaborateurs, tout comme un humoriste vend sa salle un an et demi d'avance, une année d'avance. Et dans le fond, c'est une forme de financement participatif. Donc, Fred Savard, ce qu'il fait, c'est que je lance un podcast, j'ai pas de commanditaire. Voulez-vous contribuer à mettre en place ce podcast-là avec la valeur que j'ai créée intangible comme personne, tout comme un humoriste vous dit, êtes-vous prête à donner pour Noël un spectacle que je vais vous vendre plus tard, donc dans un an, mais que je vais m'imposer quand j'aurai l'argent, mais surtout que je vous fais payer d'avance. Tu sais, un humoriste fait du financement participatif depuis longtemps. La différence avec du financement traditionnel, c'est que le financement traditionnel, il y a une banque, par exemple, qui vous prête et vous faites l'investissement. Le participatif, c'est une multitude de petits individus qui dit « Nous allons contribuer à quelque chose en échange de quelque chose. » Donc, on offre des avantages, on offre quelque chose. Donc, le financement participatif ou le socio-financement qui a une version plus don n'a pas de lien avec la fiscalité. La fiscalité, ce sera jugé par l'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec en disant quelle est la nature du sociofinancement. Est-ce que c'est une vente d'avance? Est-ce que c'est un don? Ou est-ce que c'est une aide? C'est quoi? Et là, il y aura un traitement fiscal. Donc, c'est toujours intéressant de voir cette nouvelle façon de faire-là, c'est-à-dire on va directement voir le client au lieu de passer par 1000 intermédiaires qui prennent une cote.
Oui, comme un chanteur qui dit « t'as envie de m'entendre chanter? » Ben j'ai besoin de sous, puis là, je vais
Exactement.
Chanter pour toi. Et ça devient l'échange. Bon, tu nous as promis des trucs pour faire le ménage dans nos finances.
Oui. Des mini-trucs. Je t'ai parlé de stratégie l'autre jour et là, je te parle de trucs. Par exemple, passer au peigne fin mensuellement ses abonnements. Les abonnements, les dons, tout ce qui est automatique sur sa carte, c'est comme des coûts fixes qu'on paye. Par exemple, des assurances. On paie souvent des assurances vie pleines et entières jusqu'à notre mort, mais souvent, on a besoin d'une assurance vie temporaire, c'est-à-dire jusqu'à temps qu'on soit à la retraite, notre maison soit payée, que l'avenir de nos enfants soit assuré. Et donc, on paie beaucoup moins cher une assurance temporaire. On peut donc revoir ça. Même chose, revenus, les revues, les magazines, les abonnements aux services Amazon Prime, Spotify, iTunes. Tu sais, des gens qui sont abonnés à Apple Music puis Amazon Prime, des fois, ils payent deux fois pour le même service, des fois en couper un.
Oui, c'est du dédoublement, effectivement.
Le gym, des fois, on est abonné, mais on y va pas, donc on coupe ça. Le deuxième truc, c'est critiquer...
Non, faut y aller, y aller au gym.
Mon deuxième truc, critiquer les relevés bancaires de 3 mois. Prenez 3 mois bien précis, hein. Soit septembre, octobre et novembre, ou février, mars et avril ensemble. Pourquoi je vous propose ces deux périodes-là? Ce sont les deux périodes normales. Les périodes où il n'y a pas de festivités, de vacances incroyables à part la semaine de relâche, mais on est capable de voir sur une période de 3 mois quelles sont nos bonnes et nos mauvaises habitudes. Donc, on cumule par catégorie, par exemple, les restaurants, les cafés, l'épicerie, peu importe, et là, on voit le total que ça donne. Si votre total de restaurants triple votre total d'épicerie, c'est peut-être que vous avez une possibilité de couper là. Donc, non, mais c'est vrai, on rit souvent, mais c'est une fois qu'on fait le calcul total qu'on peut remettre en doute nos habitudes et peut-être se mettre une discipline. Troisième truc aussi, ce qu'on peut faire, c'est apprendre à négocier partout. Tout se négocie. Exemple, cette semaine, j'ai négocié mes assurances. J'ai appelé un courtier en assurance, j'ai négocié. Parce que mon assureur voulait me renouveler, mais il voulait me renouveler au même tarif. T'appelles un autre assureur, puis là, whoop! Ton assurance est prête à changer son prix, finalement.
Même chose pour les services, tu sais, même chose de téléphonie ou autre. Oui.
Et attendez pas les rabais quand vous avez besoin de quelque chose. Négociez avant. Je donne un exemple. Tous les Boxing Day qui s'en viennent là, sur les électros, là, c'est du marketing. La vérité, c'est que si vous allez cette semaine magasiner des électroménagers et vous négociez, vous allez avoir exactement le même prix. Pourquoi? Parce que les marges ne changent pas parce que c'est un Boxing Day. C'est juste qu'on les affiche plus. On fait un événement. Mais dans le fond, si vous débarquez lundi matin chez votre détaillant d'électro, vous allez avoir les mêmes prix en négociant, mais vous allez être tout seul au lieu d'être dans la panoplie de gens. Bon. Le quatrième truc, acheter hors saison. C'est niaiseux, mais tu sais, des fois, on dit « Ah, j'achète mon manteau d'hiver, l'automne, je vais en avoir besoin juste automne, je décale des liquidités. » Oui, mais si tu l'achètes 3-4 mois d'avance, même 6 mois d'avance, donc en fin de saison, genre mars, avril cette année.
En grosse vente.
Mais ce qui est niaiseux, c'est qu'on se dit « Oui, mais il sera pas à la mode en automne. » Hey, tu gardes-tu ton manteau 5 ans ou tu le gardes 1 an? Parce que si tu le gardes 5 à 8 ans, que tu le gardes 3 mois de plus, que t'aies le manteau de l'année passée, c'est pas vraiment grave.
Non, puis il arrive un moment dans la vie aussi. Tu sais, quand t'as 15 et 20 ans, tu veux suivre la mode totalement, mais il arrive un temps où est-ce que c'est une question de goût. Là. Tu choisis un manteau parce que tu le trouves beau,
puis
ça coûte cher.
Classique.
Oui. Puis tu vas le porter, puis tu vas l'aimer, puis ça vaut la peine. Les bottes, c'est la même chose, des grosses bottes d'hiver.
Puis entre 15 et 20 ans, t'es cassé, là. Comment ça que tu choisis la mode? C'est quand t'es plus vieux que tu devrais suivre la mode. Et finalement, vraiment un plan. Se faire un plan. Je sais que c'est bizarre, mais ramener selon votre plan. Je te donne un exemple. Mettons que je veux perdre 10 livres en janvier. Je me fais un plan. Quand je viens pour manger un chip, je me dis « Oh, wow, je mangerai pas ce chip-là. » Ça va me faire prendre du poids. Fait que j'ai un lien entre l'objectif de 10 livres et le chip. Ben, même chose avec l'argent. Si vous dites, je veux épargner 10% de mon salaire de 60 000, ça veut dire 500$ par mois. Comment je peux atteindre mon 500$? Ben, chaque fois que vous faites un choix différent et que ça vous épargne une dépense, marquez-le sur un tableau. Par exemple, vous étiez supposé aller au restaurant, tu sais quoi? Non, sais-tu quoi? On va se faire une bonne salade avec un steak. Ça va nous coûter, mettons, 50$. Vous êtes 50$ au lieu de 120, on vient de sauver 70$ pour vous mettre sur le tableau de l'épargne du mois. Et là, vous arrivez au fur et à mesure du mois et vous démontrez que des changements de comportement vous ont permis d'accumuler le 500$. Et là, vous voyez un lien direct entre la cause et effet. Donc, se faire un plan, ça te force à devoir l'atteindre et donc à faire des choix mensuellement.
Oui.
Ça a l'air pas excitant de même, Marie-Claude, hein? Mais moi, ça me crée un degré de satisfaction énorme.
Je comprends. Puis moi, je voulais te dire aussi, je vais te faire sourire. Oui. Tu sais, avec ton titre de livre, là, en as-tu vraiment besoin? Moi, j'ai poussé ça d'une autre façon. C'est-à-dire que moi, j'arrive, on dirait, dans une période où je me dis, j'ai besoin de rien. Là. J'ai tout ce qu'il me faut, ça va bien, nanana. Bon, et puis quand je rentre dans une boutique maintenant, comme non, vous avez besoin de quelque chose? Je dis non, mais je regarde si quelque chose a besoin de moi.
mais tu sais, plus on arrive vers l'âge du temps de se payer du bon temps, là, plus ça vaut la peine. Comme là, tu peux dire, moi, là, dans la vie, je veux du temps de qualité, je veux des expériences. Peut-être moins du matériel. Tu sais, moi, j'ai 39 ans, puis le matériel, je m'en détache. J'ai plus le goût d'avoir du matériel. J'ai le goût de posséder des expériences, tu sais. Et c'est peut-être ça. Une fois que tu as tout ce que tu as besoin, là, ton trousseau de la laveuse sécheuse,
oui,
il n'y a plus de fun à consommer autant qu'avant.
Puis un chandail de plus. Ou c'est en as. En tout cas, bref, c'est ça. À un moment donné, il arrive un temps où est-ce qu'on a envie de plein d'autres choses, puis c'est bien le fun aussi de vouloir d'autres
Donc,
choses.
En janvier, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un objectif pour compenser les excès du temps des fêtes au niveau de la consommation de bouffe, et on le fait aussi du côté des finances. C'est beau, ça.
Rappellera tout ça. Merci beaucoup, Pierre.
Salut.